Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous évoquons une nouvelle maladie rare, le déficit en IGF-1. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Michel Pollack. Professeur Pollack, bonjour.
Bonjour.
Professeur Pollack, vous êtes endocrinologue et diabétologue pédiatre et chef du service d'endocrinologie, gynécologie, diabétologie pédiatrique de l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Alors tout d'abord, professeur Pollack, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on appelle déficit en IGF-1?
C'est une maladie rare de la croissance dans laquelle l'hormone de croissance est sécrétée de manière normale, mais la réceptivité à l'hormone de croissance est altérée, tant et si bien que le taux d'IGF-1, insulin-like growth factor 1, dans le sang est très faible. Et ce taux très faible d'IGF-1 est associé à une croissance médiocre.
Et comment se situe cette maladie rare au sein des troubles de la croissance?
Alors, ce déficit en IGF-1, c'est-à-dire souvent des enfants qui sont en deçà de moins 3 déviations standards par rapport à la moyenne et qui ont des taux d'IGF-1 très bas, est une maladie rare dans les maladies rares de la croissance. Nous avions, nous, étudié ça sur à peu près 2500 enfants venus à nous pour des anomalies de croissance sur 5 ans, donc à peu près 500 enfants par an, et nous étions tombés sur une prévalence du déficit primaire en IGF-1 d'1,2% de ces enfants. Alors, je dois préciser déficit primaire parce qu'on ne parle pas ici de déficit secondaire en IGF-1. Quand on a une anomalie hépatique, une maladie hépatique, le taux d'IGF-1 peut être bas, par exemple. Mais à ce moment-là, c'est un déficit secondaire en IGF-1. Donc, on évoque ici les déficits primaires en IGF-1 qui sont le sujet de notre podcast.
Et comment survient ce déficit primaire en IGF-1? Quelle est la physiopathologie de cette maladie rare?
Alors, l'archétype de cette maladie, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Laron, qui a été découvert dans les années 58-60, élucidé sur le plan moléculaire une vingtaine d'années plus tard. C'est une anomalie du récepteur de l'hormone de croissance. Autrement dit, dans cette maladie de Laron, l'hormone de croissance est sécrétée parfaitement normalement, même en quantité importante, mais l'hormone de croissance rencontre un récepteur qui, lui, n'est pas fonctionnel. Et il n'y a donc pas de génération d'IGF-1. Voilà un mécanisme connu. Mais on sait maintenant, et on connaît une dizaine d'anomalies moléculaires associées à ce déficit primaire en IGF-1, et toutes concernent des molécules qui sont impliquées dans la transduction du signal de l'hormone de croissance.
Et d'un point de vue clinique, professeur Pollack, quels sont les principaux symptômes rencontrés chez ces patients touchés?
Alors ça, c'est une question compliquée, parce que quand on regarde l'archétype de cette maladie, le déficit primaire en IGF-1 par syndrome de Laron, on a des signes cliniques assez typiques dans les formes les plus habituelles. L'étage moyen de la face est par exemple petit. Les conditions de naissance sont assez normales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand retard de croissance intra-utérin. La taille et le poids de naissance sont en général normaux. Mais il y a une décroissance de la vitesse de croissance après la naissance et des enfants qui vont être extrêmement petits. Donc, on les reconnaît finalement parce que sur le visage, on peut voir des signes de déficit primaire en IGF-1 profond, comme dans le syndrome de Laron. Mais plus récemment, ont été décrites des formes atténuées où les enfants ont un retard de croissance parfois moins sévère, mais enfin tout de même moins 3, moins 4 déviations standards par rapport à la moyenne, mais ne vont pas avoir le phénotype, si je puis dire, inscrit sur leur visage. Donc il faudra savoir les dépister en faisant la courbe de croissance, en dosant le taux d'IGF-1 qui sera particulièrement bas. Sinon, souvent, ce déficit primaire en IGF-1 s'intègre dans des pathologies de la croissance syndromiques, donc accompagnées d'autres signes, et au milieu desquels il y a ce déficit primaire en IGF-1. Ça, c'est le plus souvent la situation quand il n'y a pas de syndrome de Laron.
Et en l'absence de traitement, professeur Pollack, quelle est l'évolution de cette maladie?
En l'absence de traitement, la taille est extrêmement petite. Et d'ailleurs, le syndrome de Laron est un modèle de compréhension de la croissance chez l'humain passionnant parce que, en gros, les personnes avec syndrome de Laron, qui, quand elles n'ont pas fait d'hypoglycémie dans la petite enfance, vont avoir une intelligence tout à fait normale, sont autour d'1m35, 1m40. Donc on voit que finalement, sans l'action de l'hormone de croissance, la croissance naturelle de l'humain va jusqu'à 1m30, 1m35. Mais que le gain statural supplémentaire qui amène les femmes à environ 1m63, 64 en moyenne et les hommes à 1m75, 1m77 en moyenne est très dépendant de l'hormone de croissance.
Eh bien, merci mille fois, professeur Pollack, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le déficit en IGF-1. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite!